Au niveau du langage, la notion de création n'appartient qu'à la langue hébraïque. Elle va ensuite passer dans les autres langues que l'hébreu, mais par traduction. Et lorsque les autres langues l'emploient, de deux choses l'une, nous sommes renvoyés à l'analyse précédente, ou bien elles l'emploient dans le même sens que l'hébreu, alors elles ne sont plus non-juives sur ce point-là. Elles répètent ce que dit l'hébreu. Ou bien elles ne l'emploient que par façon de parler, et alors il y a là une projection réciproque. Si cela nous est renvoyé dans notre langage de juif, cela nous rend inauthentique. Si au contraire, nous le diagnostiquons comme langage non-juif, eh bien nous avons dialogue d'école à école, mais avec cette grande différence que le juif sait, lorsqu'il se veut authentique, qu'il ne parle pas au nom d'une pensée humaine, alors qu'il parle à un homme qui lui parle au nom d'une pensée humaine. Et c'est pourquoi le dialogue, la communication entre l'hébreu et le goy est si difficile lorsque ces préalables ne sont pas élucidés. Et j'essaierai de l'éclairer immédiatement. Nous verrons dans une deuxième partie que il n'y a pas que cela de la pensée juive. Il y a aussi l'expérience de la pensée humaine réagissant sur ce contenu révélé et qui va s'y intégrer, s'y incorporer. Mais ça, nous verrons après. Hein? Et après avoir vu le problème de communication, comment se fait-il que l'hébreu ait compris des notions qui viennent d'ailleurs, qui ne viennent pas de la pensée juive, de la pensée humaine, ou des juifs en tant qu'hommes, des notions qui viennent d'un autre ordre de pensée. Tout se passe comme si l'hébreu a été élève de quelque chose d'autre, et qui ne vient pas de la réflexion humaine à la manière philosophique telle qu'elle est connue dans la culture universelle. Je vous donnerai très rapidement des précisions du point de vue du langage. Vous savez que le terme hébreu que l'on traduit par créer, c'est le mot baro, bet, resh, alef. Cette racine baro se trouve aussi dans d'autres langues sémitiques, mais elle n'a pas exactement le sens qu'elle a en hébreu. Par exemple, nous le trouvons en araméen. En araméen, la racine bara, bet, resh, alef, et vous savez à quel point l'araméen est proche de l'hébreu, au point qu'il nous arrive de chanter et de pleurer en araméen. Mais cette même racine en araméen signifie à la limite extérioriser, mettre à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur, ça s'appelle le champ en araméen. Bara, c'est sadé en hébreu. Sadé, le champ. Ce qui est à l'extérieur de la ville. Vous connaissez cette mira du vendredi soir, Hevat bara ve'ofeshmaya. Une phrase de Yeribouen. Enfin, je dis ça pour ceux qui sont un peu habitués, mais pour les autres, je traduis. Nous avons dans un des poèmes du Shabbat cette expression Hayot Asadé Ve'of HaShamayim en hébreu. Ça veut dire les bêtes des champs et l'oiseau du ciel. Et en araméen, ça devient Chevat Bara Ve'of HaShamaya. Bara traduit Sadé. Oui, Sadé, ça veut dire le champ. Mais étymologiquement, en araméen, ça veut dire l'extérieur. Ce qui est Kutz. Ce qui est dehors, le dehors. Et par conséquent, cette racine baro signifie en araméen extérioriser, mais pas créer dans le sens hébreu. Bien entendu que extérioriser, c'est une manière de créer, mais c'est une manière, c'est une façon de parler. Vous voyez ce que je voulais préciser à ce niveau. Lorsque l'homme entend la notion de créer prise au sérieux, il l'entend en hébreu, il ne peut pas l'entendre dans une autre langue. Et c'est peut-être pour ça que c'est les hébreux qui l'ont entendu, justement, en hébreu. On verra ce problème tout à l'heure. Ou par exemple en arabe. Et en arabe, c'est encore beaucoup plus clair. Berra, en arabe, c'est prononcé à l'arabe, c'est toujours bet resh alef, de l'hébreu. Berra, si vous voulez berra, il faut resh à l'espagnol, ça veut dire dehors. Pour dire un étranger, on dit berrané. Berrané. L'étranger, celui qui est du dehors. Et puis, aussi dans l'araméen parlé, le mot. Le mot qui veut dire le fils, bar, hein? Bar, ça veut dire le fils, mais c'est l'idée de ce qui a été extériorisé, mis à l'extérieur, mis au monde, mais enfin dans le sens d'engendrer, procréer, mais pas créer. Hein? Il est bien évident que dans cette notion de prise au sérieux, ça veut dire ex nihilo. Or, jamais un père n'a fait un fils ex nihilo. Alors, on dira à la limite. flexible, on dirait à la limite, qu'effectivement, procréer, ça ressemble à créer, engendrer, extérioriser, mettre en dehors, tout ce que vous voulez, ou lorsque l'artiste crée une œuvre, mais tout ça, ce n'est pas la catégorie de la pensée juive pour elle-même. Et voilà, je crois que déjà que nous sommes bien habitués à ce premier exemple. C'est que, effectivement, la pensée humaine, juste la pensée des juifs en tant qu'hommes, ne comprend pas une telle notion. Elle ne peut pas la comprendre. Elle l'entend parce qu'elle l'a reçue, puisqu'elle ne fait pas partie de la pensée. Elle n'est pas constitutive de la pensée humaine. Alors, lorsque les philosophes nous disent « mais cette notion n'est pas rationnelle », ce n'est pas du tout un problème, c'est un faux problème. On a remédié qu'elle était rationnelle. Et vous voyez jusqu'où cela va. C'est-à-dire, lorsque cela nous est renvoyé comme acte de foi, eh bien, cela n'est pas du tout un problème. C'est donc un tout autre niveau qu'il y a un contenu de connaissance de la pensée juive pour elle-même. Et il était nécessaire de le débrouiller. Abordons le troisième point, le point de vue du Limoud. Eh bien, du point de vue du Limoud, on commencera par nous rappeler qu'effectivement, une telle notion ne peut pas être comprise, ça ne signifie pas, en tant que telle, ça ne signifie pas qu'elle ne véhicule pas une signification. Et voilà ce que ça signifie du point de vue de la méthode. Si nous nous approchons de telle notion avec l'appareillage de la constitutive de la pensée humaine, le plus génial soit-il, le plus élaboré soit-il, on nous répondra, on ne peut pas comprendre. Même avec la raison d'un Descartes, même avec la raison d'un Kant, même avec la raison d'un Spinoza, d'ailleurs, Spinoza n'a pas compris. En tant que Spinoza, il l'a refusé. Je citais tout à l'heure le fait que le postulat général des philosophies à ce sujet, c'était que la pensée ne peut pas accepter l'idée de la création d'elle-même. Et je prendrai l'exemple privilégié de Descartes. Descartes qui établit dans son Cogito le fait que la pensée transcende l'ordre du monde, et c'est pourquoi elle peut penser l'ordre du monde et en faire et en dire le discours de vérité, parce que cela procède de l'expérience du doute. On peut douter de n'importe quoi, mais sauf du fait que l'on pense, parce que pour douter, il faut encore penser. Et par conséquent, il y a une seule chose qui est indubitable, selon Descartes, c'est le fait de penser, c'est la pensée comme essence, lui disait, comme nous dirions nous, les modernes, comme fonction, parce que, quelle que soit la mise en doute des contenus de pensée, une seule chose ne peut pas être mise en doute, c'est la pensée, puisque pour douter, il faut penser. Donc, dans mon langage maintenant, de mon exposé, de cet exposé, ça veut dire que la pensée est hors du monde qu'elle pense, qu'elle est préalable et hors du monde qu'elle pense. Et qu'en aucun cas, la pensée n'admettra qu'elle est créée. Et que si elle admet que le monde est créé, c'est par façon de parler. En tout cas, elle n'est pas créée. Vous voyez dans quel univers intellectuel et spirituel, l'homme en dehors d'Israël se trouve, et se trouve par nature. Et que par conséquent, lorsque l'identité d'Israël fera une éruption dans l'histoire, en commençant par dire, premièrement, on est rendu au commencement, le Sardinien, premièrement, le monde a été créé, c'est un choc de spécifique de quelque chose qui vient d'ailleurs. Alors, deux choses l'une. Ou l'hébreu qui parle ainsi ne sait pas de quoi il parle, ne sait pas ce qu'il dit, c'est de la poésie, et ça vaudrait pas de quoi faire des instituts d'études de la pensée juive, on renverrait ça au folklore. Ou bien il sait ce qu'il dit, mais alors c'est spécifique. Et ça n'a plus rien à voir avec la pensée humaine en général. Et nous savons très bien que cette notion qui n'est que la première va véhiculer toute une conception du monde, toute une question du monde et une réponse à cette question du monde, et elle va être en lutte, et elle va être en non seulement en rivalité, mais en lutte et en polémique, et pas seulement en dialectique, avec la pensée humaine en général. Et cette lutte n'est pas terminée, cette lutte ne sont pas encore sortis, et dans cette lutte, il nous arrive de perdre des soldats qui passent à la nuit, comme vous le savez. Revenons en tout cas à notre problème. Et on nous dira donc, premièrement, dans le troisième point de vue de l'approche, celui de la compréhension, on nous dira premièrement, c'est une notion qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est qu'on ne comprend pas philosophiquement, qu'on ne peut pas comprendre, même si on l'admet, même si on y adhère, même si on y croit. Parce que c'est cela qu'elle veut dire, c'est devenu un acte de foi. C'est un acte de foi pour qui ne dispose que de la pensée humaine, c'est-à-dire qu'il ne dispose pas du langage de communication de ces notions lorsqu'elles se sont communiquées à l'hébreu, c'est-à-dire de la Lachon HaKodesh. Mais quand même, quoi que ce soit de cette compréhension du Lachon HaKodesh, passe à travers l'exégèse que les Juifs font de leur propre texte. Et c'est par exemple, là nous revenons donc dans les deux premiers points de vue, et ce n'est pas par hasard, je veux dire que dans cet exemple, d'emblée, c'est l'explication du point de vue de l'identité morale qui nous est toujours donnée d'abord. Bien entendu, il y a des niveaux du limoud, de l'étude, de compréhension, il y a des niveaux de récupération de la spécificité hébraïque pour elle-même dans ces problèmes, mais vous serez habitué toujours dans vos études d'exégèse ou dans vos études de limoud elle-même à ce que les maîtres de la tradition juive ont l'habitude par postulat d'emblée de donner l'explication morale de la notion en question. Il s'agira toujours de notions incompréhensibles philosophiquement, reçues comme des actes de foi, mais lorsqu'on commence le projet de la signification, alors c'est d'abord la signification dans le moral qui est donnée par le juif, et c'est en cela qu'il s'agit de penser juif. Lorsque c'est d'abord le point de vue de la moralité qui est donné, et secondairement seulement le point de vue intellectuel ou théorique ou métaphysique. Et c'est en cela que nous sommes radicalement différents encore de la pensée occidentale. Nous n'avons pas encore réussi à la judaïser, si je dis, pas, puisque la méthode de l'Occident est encore la méthode païenne laïcisée, c'est-à-dire la méthode gréco-romaine, d'abord le point de vue de l'élucidation intellectuelle, et après l'option morale. Mais vous voyez à quel point l'option morale sera aléatoire, parce qu'elle sera à la remorque d'évidences intellectuelles préalables. Et les évidences intellectuelles sont toujours des postulats que seule, finalement, une certaine psychanalyse du langage peut élucider. J'ai bien dit une certaine. Voici l'exemple, en tout cas, pour la notion de création. Et bien, nous allons le prendre, d'ailleurs, dans Rashi. Et ce n'est pas du tout le contenu de l'exemple que je vais traiter. Nous l'avons déjà étudié, cet exemple, pour sa préoccupation propre, mais simplement pour en dégager le principe d'enseignement que l'on veut nous en donner. Je répète, Rashi, nous expliquant ce que signifie que Dieu a créé le monde, ne va pas nous dire ce qu'il faut pour comprendre comment Dieu s'y prend pour créer, ça nous ne comprenons pas, à moins que nous nous initions à ça dans le Lashon HaKodesh, c'est-à-dire dans la langue spécifique de formulation de cette pensée spécifique qui n'était pas humaine lorsqu'elle a été dite, qui est devenue humaine en Israël lorsqu'elle a été reçue, mais secondairement seulement. Eh bien, il nous dit ceci. En principe, ce texte qui nous enseigne que le monde est créé ne devait faire pas partie du livre écrit, c'est-à-dire du livre qui peut être lu, puisqu'on ne peut pas le comprendre. Et Narmanide surenchérit. Et Narmanide, le long commentaire de Narmanide sur ce Rashi, nous donne 1000 exemples pour nous faire comprendre que toutes les notions bibliques sont dans ce cas. Reprenez le Narmanide sur Rashi, vous verrez. Rashi, gentiment, nous dit, ce terme de créer, on ne comprend pas. Alors on ne comprend pas pourquoi il nous est mis dans la tradition écrite, puisque personne ne peut le lire. Tout le monde peut le lire, mais personne ne peut le comprendre. Et Narmani nous dit, et pas seulement la notion de créer, mais tout ce que la Bible raconte après. Et tout ce dont elle parle. Et les six jours du commencement, tout ce qu'il y a dedans, et la notion du Shabbat, et le jardin d'Éden, et Caïn, Abel, tout ça. Et Narmani, tranquillement, c'est un rabbin qui parle, et il dit, on ne comprend pas. Alors pourquoi c'est mis par écrit? Et alors il nous dit, au moins, quel que soit l'objectif du commentaire, au moins, pour que nous puissions récupérer l'intuition morale préalable qui avait permis à l'hébreu de comprendre qu'est-ce que ça veut dire créer, même si nous, juifs, nous ne comprenons plus, parce que renvoyé à la pensée humaine coupée de la prophétie, à moins que nous nous initions au Lashon HaKodesh. Est-ce que vous voyez à quel niveau les choses se passent? Et voilà ce que Rashi nous dit. Il va arriver un temps, encore une fois, nous n'avons pas traité d'un problème contemporain. Ça, c'est Rashi, il y a des siècles. Il arrivera un temps où lorsqu'Israël voudra rentrer chez lui, ineffable, eh bien, il y aura une contestation de tous les peuples de la terre. Rashi commence à poser comme question pourquoi la Torah commence au commencement, c'est-à-dire à une notion incompréhensible. Le commencement, c'est incompréhensible. C'est peut-être même plus incompréhensible que la création. Parce que le commencement, c'est déjà un mystère. Mais le commencement du commencement, c'est encore plus mystérieux. Vous comprenez ? Et là, regardez bien le mot hébreu, Bereshit, qui veut dire au commencement. Le commencement du commencement, c'est Bara, qui veut dire créer. Vous visualisez, Bereshit, c'est Bet, Resh, Alef, Shin, Mitzvah. Et au commencement du mot au commencement, il y a de nouveau ce mystère de Bara qui veut dire créer. Barashit, bon, on dit comme ça. Oui. Eh bien, c'est-à-dire en dépit de ce mystère et de ce mystère à l'intérieur du mystère, si la Torah nous l'a mise par écrit, cette notion, Rashi nous dit, ben, c'est à cause d'un tout autre problème. Lorsque Israël voudra entrer en possession de la terre de la promesse, il y aura une contestation de tous les peuples du monde, et bien c'est là nous la vivons, enfin revenons au temps de Rachi. Et ça veut dire qu'il était prophète, il n'était pas commentateur, vous voyez. Alors Israël aura à répondre, le monde pourra répondre, le monde a été créé par Dieu, et par conséquent, la terre appartient à qui Dieu la donne. Le commentaire est brutal, parce que ça ressemble encore à un acte de foi. La réponse à la question est tout aussi difficile que la question. Je vais essayer d'élucider rapidement. Le problème exégétique proprement dit est considérable. Il y a des bibliothèques décrites sur ce commentaire-là. Ça vaut la peine de l'étudier dans le détail. Enfin, ce n'est pas l'objet de l'étude ce soir. Simplement, je le cite pour illustrer ce propos. Et Rachid nous dit, puisque ce texte est mis par écrit, il faut bien qu'une signification en procède à la lecture. Soyons d'abord avertis qu'on ne comprend pas, honnêtement, mais quand même il faut qu'une signification ait voulu être véhiculée. Alors c'est laquelle? Bien, ce qui résulte de la réponse de Rachid, c'est que c'est au niveau d'une catégorie morale que la notion de création est définie. Ça veut dire que le créateur, cela signifie en hébreu, celui qui donne l'être. Reprenons le commentaire de Rachid. Rachid nous dit ceci. Lorsque Israël voudra entrer en possession du pays de la promesse, je vous le dis d'ailleurs en hébreu, les Umot HaOlam, les nations du monde, diront « Listim Atem, Shekibashtem, Arsot, Shiva Amane ». Vous êtes des listim, ça veut dire des brigands, aujourd'hui on dit des impérialistes, oui. Ça n'a pas tellement changé. On dit aussi les colonialistes. Enfin, le mot de Rachid, c'est l'estime. Et l'estime est un mot hébreu qui veut dire des brigands. Vous êtes des sionistes, comme on dirait aujourd'hui, puisque chez qui Bastem, d'ailleurs c'est vrai quand même, chez qui Bastem, Arsot Shiva Goïm, parce que vous avez conquis, qui Bastem, vous avez conquis la terre des sept peuples, alors Israël leur répondra, en se référant donc à la Bible où il est écrit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, la Bible que tous peuvent lire, et que grâce à Dieu maintenant, à l'ONU, on peut lire aussi. Puisque, vous voyez à quel point Rachid avait prophétisé, pas seulement Rachid, le Midrash qu'il cite, et lequel Midrash date de 1000 ans d'avant Rachid. Et ils ont donc prophétisé un temps où les peuples du monde liront suffisamment la Bible comme texte de référence pour pouvoir être convaincus, le cas échéant, par la référence à la Bible. Que créer, ça veut dire que Dieu donne la terre à qui la mérite. Israël aura à répondre, « Kol ha'aretz shel HaKadosh Baruch Hu, oui, toute la terre appartient à Dieu parce qu'il l'a créée et il la donne la Asher Yashar Be'elav, à qui est droit à ses yeux. » Ça ne veut pas du tout dire à qui bon lui semble, comme j'ai lu souvent dans des exégèses approximatives. Ça veut dire que ce que ça veut dire, à qui est Yashar, à ses yeux, à qui est droit à ses yeux, Yachar, ça veut dire droit, ça veut dire qu'il y a une clause morale du droit à posséder ce que Dieu donne. Mais nous sommes renvoyés, du dedans même de ce commentaire, à une définition en langage de moralité de la catégorie du créé. Et voilà donc, si vous voulez, la première perspective de la spécificité de la pensée juive. Elle véhicule des notions révélées, et qui, comme telles, ne sont pas comprises philosophiquement, si l'on se borne à l'enquête philosophique. Mais elle les véhicule en exprimant d'abord, je dis bien d'abord parce qu'il y a aussi les autres niveaux, une signification morale. Et cela signifie bien, ce que je disais en commençant, que les contenus intellectuels sont seconds par rapport à une certaine expérience de la morale. Est-ce que c'est bien clair jusque-là? Bon, alors nous pouvons maintenant aborder l'illustration, l'enrichissement historique de cette première notion. Ensuite, il nous restera le temps, alors nous verrons aussi les deux autres, c'est-à-dire celle de révélation ou celle de rédemption, mais peut-être ça sera pour une autre année, parce qu'on risque d'être occupé par la première. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a une question à ce sujet? Est-ce que tout ça est quand même clair? Quand même? Je suis sûr que vous avez des questions ou des objections. Alors, avant d'aller plus loin, je préférerais quand même qu'on se détende un peu. Allez, vous donnez une deuxième raison, et dans la même série des points de vue, d'abord philosophique, ensuite exégétique, ensuite de compréhension, qui nous indique effectivement que cette notion n'est pas constitutive de la pensée humaine, et que par conséquent, comme je disais au début, si nous devons prendre la cohérence de la pensée juive pour elle-même au sérieux, nous devons admettre ce qui fait les postulats de méthode de la tradition juive pour elle-même, quelle que soit la distance culturelle que nous pouvons avoir vis-à-vis d'elle, lorsque nous traitons ces problèmes, et c'est-à-dire qu'il s'agit d'une pensée qui, à l'origine, a été révélée et qui ne peut se transmettre authentiquement qu'à travers des attendus d'identité spécifique. Eh bien, voilà une deuxième raison, d'abord dans l'analyse philosophique. Vous savez que la pensée humaine a l'habitude de penser sous forme de jugement. Un jugement, c'est établir une relation entre deux données, entre deux concepts. Et en général, la pensée philosophique, surtout la pensée philosophique moderne a redécouvert ce terme de méthode, comprend plus la relation des termes que les termes eux-mêmes. Je vais essayer de vous donner un exemple banal. Si je dis « le ciel est bleu », eh bien, apparaît là une notion que le ciel est bleu, et j'établis une relation entre le ciel et bleu. Eh bien, au fond, en tant qu'homme, disons, ou en tant que philosophe, je comprends plus le fait que la relation « le ciel est bleu », qui est le jugement que j'ai exprimé, que « qu'est-ce que c'est le ciel » ou « qu'est-ce que c'est que le bleu ?» Et il semble bien que la pensée scientifique, à la limite, épistémologiquement, comme l'on dit, s'achemine vers un niveau de méthode de ce genre. Ce qui est clair, c'est les données de relation, l'être de relation, comme on dit, beaucoup plus que les termes des relations. Vous suivez bien? Et tout l'univers de la pensée humaine tend vers ce degré d'évidence-là. C'est la raison, finalement, pour laquelle la raison sert à tout, sauf à se comprendre. Parce que, finalement, on se communique des relations de termes, mais les termes eux-mêmes, il faut une autre expérience de connaissance pour les pour les percevoir en eux-mêmes. Bien. Eh bien, prenons cette catégorie de la création, qu'est-ce qu'il arrive d'elle si je la mets sous forme de jugement? Ça veut dire que le geste du créer, le fait de créer, est la relation entre deux termes, Dieu, créateur, et le monde créé. Et que création, ça veut dire la relation entre Dieu et le monde. Alors ça signifierait que la pensée humaine est capable de transcender et la notion du monde et la notion de Dieu, et qu'elle se situerait dans une super divinité qui serait plus divine que Dieu lui-même. Il y a Sophie de nouveau. Donc, et une pensée humaine qui entreprendrait cette aventure de penser la notion de création serait renvoyée à cette angoisse-là de se découvrir super divine. En réalité, elle se dévoilerait comme orgueilleuse, tout simplement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, il y a là une deuxième approche analytique qui montre que la pensée humaine renvoyée au niveau philosophique ne peut pas penser avec sérieux une telle notion, sinon sous forme d'hypothèse. Et sous forme d'hypothèse qui a effectivement été l'hypothèse préalable de l'identité hébraïque, qui lui a permis de recevoir par révélation confirmation de cette hypothèse en certitude. Et c'était une hypothèse d'expérience d'ordre moral. Si nous abordons effectivement maintenant le contenu exégétique, eh bien, nous apercevons que la Bible enseigne que c'est à partir d'Abraham que commence cette identité hébraïque, en tout cas qu'elle ressurgit de la clandestinité où elle se trouvait depuis le premier homme et depuis les différentes lignées. Par une expérience d'ordre moral, apparaît cette identité hébraïque qui va connaître le face-à-face avec le Dieu créateur. Et ce face-à-face a toute une histoire. C'est toute l'épaisseur de l'histoire des patriarches. Il commence à Abraham, et finalement il ne se réalise qu'avec Moïse, et il y a ces six générations des différentes étapes de récupération de l'identité de créature comme telle sorte que le face-à-face avec le Dieu créateur se réalise, et c'est là que se révèle, c'était la deuxième notion, la loi morale, tel que le Créateur l'entend. Et bien effectivement, l'ensemble de l'exégèse, cette fois-ci, de ce point de vue, nous montre que cette identité hébraïque qui va commencer à émerger en Abraham ne procède pas d'un postulat d'ordre intellectuel, parce que pour les raisons précédentes, nous serions renvoyés à un sophiste, mais à procéder d'une expérience d'ordre moral. Et là, je récapitulerai un certain nombre de thèmes qui non seulement sont des thèmes propres au Midrash, ou à l'exégèse biblique proprement dite, ou au Talmud, ou à la Kabbalah, mais qui sont les thèmes pré-pensés ou impensés de toute manifestation de l'identité culturelle juive postérieure, quelle que soit son apparence, fût-ce même parfois et souvent agressivement non-religieuse, etc. Mais partout où l'identité juive arrive à donner témoignage d'elle-même de façon spécifique. Et bien c'est le fait que Abraham se connaît comme créature d'une certaine manière et que par là, il connaît le Créateur. Donc la notion de création. C'est se connaître comme étant le résultat d'un don de l'être et que par conséquent, il y a donc un Créateur. Je veux dire que le raisonnement, si j'ose dire, n'est pas d'ordre intellectuel ou théorique, ni d'ordre de l'expérience morale. Abraham n'a pas d'abord connu Dieu comme Créateur, et ensuite il s'est connu comme créature. Ça, ce serait un enseignement de théologie. Informé de l'expérience hébraïque, alors nous pouvons avoir l'ordre des propositions dans ce sens. Premièrement, il y a un Dieu créateur, et j'y adhère par postulat, par acte de foi, ou par postulat, ou par piété, ou par ferveur, ou par tout ce que vous voulez. Mais il y aurait ce postulat d'adhésion d'abord, et donc deuxièmement, c'est que je suis une créature, et si je suis une créature, il y a des conséquences, et ça mènera à la moralité. Mais le processus dans l'expérience d'Abraham a été inverse. L'hébreu se connaît comme créature. C'est-à-dire qu'il y a une vertu intellectuelle qui était implicite dans une vertu d'abord morale. C'est une vertu de l'ordre moral de se connaître comme tel. Se connaître comme n'existant que parce que l'on a reçu l'être. C'est une expérience de la moralité. Et de cette expérience de la moralité surgit l'évidence métaphysique, donc il y a un créateur. Est-ce que c'est suffisamment clair? C'est-à-dire, Abraham s'est connu comme créature. Alors il a su qu'il avait un créateur. Et la révélation intellectuelle de cette évidence est seconde par rapport à l'expérience morale proprement dite. Eh bien, nous arrivons là à, effectivement, à l'éclairage de cette notion que j'avais citée au début, qu'il s'agit bien d'une expérience préalable d'identité. Cette expérience préalable d'identité, elle est universelle, en principe. Ça veut dire que n'importe quel être pensant, n'importe quel homme, si vous voulez, peut avoir cette expérience d'Abraham. Je veux dire, elle est spécifique, mais en tant qu'universelle. Et là, nous retrouvons d'ailleurs un des thèmes et des catégories globales de la réflexion juive sur elle-même, ce fameux problème de polarité de l'identité et de la pensée juive, sa spécificité et son universalité. En langage philosophique, c'est une antinomie. En langage philosophique, c'est une contradiction. Et ce sont ces préalables intellectuels faussés qui projettent toutes ces difficultés au niveau de l'ordre politique qui concerne l'identité juive. C'est-à-dire le fait de ne pas arriver à maîtriser une catégorie suffisamment juive d'origine traditionnellement qui nous permette de dépasser, de surmonter ce conflit de contradictions qui dramatise les juifs, qui les culpabilise parfois, qui les met dans des impasses, tant dans l'ordre intellectuel que politique. Comment arriver à résoudre ce conflit entre spécificité et universalité? Nous avons toujours ces deux intuitions parallèles et complémentaires, mais nous nous excommunions réciproquement lorsque nous choisissons les deux termes, un des deux termes de l'alternative, d'universaliste à sioniste, c'est-à-dire, ou de spécificiste à universaliste, c'était un faux problème. Nous l'avons à la racine ici. Lorsqu'Abraham se découvre hébreu, créature, c'est une expérience à l'échelle de l'universel. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il était membre de telle ou telle nation a priori qu'il est ce qu'il est. C'est parce qu'il a fait cette expérience qu'il est devenu l'hébreu, c'est-à-dire une façon très spécifique d'être homme à partir de ce moment-là, mais par principe à l'échelle de l'universel. Ça veut dire que n'importe quel homme est capable de faire ce cheminement-là. Le premier qui l'a réalisé en mutation a été l'hébreu, parce que c'est du devant de son identité que s'est formulée en conviction d'ordre spirituel cette hypothèse d'ordre moral que c'est comme créature que je me connais. Je voudrais quand même faire là un peu la phénoménologie de cette expérience. Il y a, au fond, pour l'homme, deux manières d'accéder à la conscience de soi, deux manières et deux seules dans ce problème. D'accéder à la conscience de soi et de découvrir le problème de la pensée réfléchissant sur sa destinée, problème qui fait le discours de l'homme. Ou bien je me connais comme étant moi l'être, et alors je suis en dehors de l'expérience d'Abraham. Si c'est moi l'être, je suis renvoyé à la pensée d'un juif. C'est moi l'être, et c'est moi l'être qui parle, et je parle de l'homme, et c'est moi l'être qui dit la vérité, et je suis renvoyé radicalement à un monde autre que celui de la tradition hébraïque. C'est, si vous voulez, du point de vue historique, de façon privilégiée, ce qu'a été l'expérience de la pensée grecque. La pensée se découvrant comme étant elle l'être. Et toute notre civilisation est imprégnée de ces pré-dogmes, de ces dogmes informulés, de ces dogmes, de ces intuitions pré-pensées. C'est dans cet écran de pensée que se posent nos problèmes, et finalement nos problèmes politiques et moraux dans la civilisation occidentale. Que c'est moi l'homme qui suis l'être. C'est non abramique, si vous voulez. Et phénoménologiquement, la deuxième manière de se connaître, c'est de se connaître en filialité. C'est de se connaître comme n'ayant pas pu être si on n'avait pas reçu l'être. C'est se connaître comme fils d'eux. Et c'est Abraham. C'est parce que c'est connu comme fils d'eux qu'il a été le père de la multitude des croyants. Vous remarquez d'ailleurs, on le cite souvent, que cela résulte constitutivement du langage hébreu. Le premier mot de l'alphabet hébreu, c'est le mot père. Aleph et bet. Aleph bet, ça fait av. Ça veut dire que lorsque ce langage s'exprime, il dit la vérité. Enfin, je ne dis pas la vérité, mais enfin, il dit la vérité. C'est le langage d'un côté. Et on pourrait d'ailleurs aller plus loin dans cette analyse, mais pour reprendre ce premier point essentiellement, cela signifie bien que c'est du dedans d'une expérience d'identification morale qu'a procédé la spécificité de la pensée hébraïque, ceci étant éclairé dans cette première notion, celle de la création. Et pour éclairer la perspective de tout à l'heure, il y a bien là une spécificité radicale. À partir de ce moment-là, et dès le principe, l'hébreu n'est pas un autre homme. Dans toutes les conséquences qui seront tirées de ces postulats de catégorie, l'hébreu sera différent de l'autre homme, et c'est cela qui fait le juif. Mais c'est à l'échelle de l'universel, et c'est cela qu'il faut récupérer. Si vous voulez, ce qui fait cette conviction farouche du juif fidèle à son identité traditionnelle, et dont on l'accuse de chauvinisme, de israélocentrisme, au marché au cadré, eh bien, cela vient de là. Ça veut dire qu'il y a la conviction préalable de la racine même de la réflexion et de la connaissance de soi, que cette spécificité est radicalement spécifique, mais qu'en tant que telle, elle est universelle. Et que tous les autres universalités sont des pseudo-universalités. Qu'effectivement, le centre est dans l'identité hébraïque, le centre de l'universel est dans l'identité hébraïque, et que toutes les écoles universalistes non-juives sont paroissiales, sont provinciales. C'est le mot que je cherche. Est-ce que c'est suffisamment clair? C'est-à-dire, lorsque la pensée juive dit d'Abraham qu'il est le nouvel Adam, d'Abraham, je dis bien, qu'il est le nouvel Adam, eh bien, ce n'est pas une façon pieuse de parler. Qu'il y a eu récupération universelle sous cette forme spécifique de l'identité juive en Abraham comme témoignage, comme annonce du salut à l'échelle universelle pour toutes les familles de la Terre. Et ce n'est pas pour rien que c'est ainsi que les textes en parlent. Et au fond, ce que j'ai essayé de faire dans cette analyse, c'est, si vous voulez, c'est d'évacuer le côté piétiste de la lecture de ces textes pour en récupérer le niveau proprement intellectuel. Mais inévitablement, ça passe par le biais d'analyse méthodologique qui doit être aussi stricte que cela. Bien entendu, tout ceci est discutable. Je ne crois pas que ça soit réfutable. Enfin, c'est, je dis, je ne crois pas. Enfin, sinon, je ne croirais pas. Mais, je veux dire, elles sont discutables, parce que chaque point de cette analyse de méthode peut être prise. Mais enfin, si on en admet le postulat de départ, alors tout le reste suit au bénéfice de telle ou telle conduite du raisonnement ou d'une autre, peu importe, Mais en tout cas, ce qui nous le confirme, c'est le fait que c'est le fait d'une pensée d'un peuple, d'une nation, d'une tradition collective et unanime, et non pas d'une école, d'un penseur et ses élèves, d'un professeur ou d'un intellectuel, fut-il juif français, et de son école. Et qu'il s'agit vraiment de la pensée d'une manière d'être homme, c'est-à-dire d'une tradition. Vous allez croire que je pense à autre chose, c'est pas vrai. Et abordons, si vous voulez, par ce biais maintenant, le point du problème de la communication. Eh bien, il est bien clair que s'il en est ainsi, que si l'évidence de telle notion procède d'abord d'une certaine identité, mais je voudrais que vous reteniez bien cela, n'est-ce pas ? Que cette identité est radicalement spécifique, mais provisoirement spéciale, qu'elle est destinée à être récupérée à l'échelle de l'universel, parce que dans le principe, elle est la récupération de l'universel. C'est en ce sens-là que la tradition a dit de Abraham qu'il est le nouvel Adam à l'échelle universelle. Abraham a été le seul individu de l'humanité, dans la cohérence du récit biblique, à être tout l'homme à la fois. Et ce n'est que par façon de parler que nous disons de chacun d'entre nous qu'il est l'homme à l'échelle universelle. Ce n'est qu'au niveau de Enoch, pas au niveau de Adam. Il y a eu un seul Adam qui soit Adam, c'était Adam Arishon. Et peut-être que déjà dans cette formulation, Adam Arishon, le premier Adam, ça ne veut pas dire seulement en hébreu le Adam du commencement de la série, le premier, mais ça veut dire qu'il y en aura une deuxième forme, le Adam Arishon, mais qu'il y aura un Adam Hacheni qui serait Abraham. Et que, puisqu'effectivement, dans Abraham, individu, est récupéré l'expérience de l'identité humaine à l'échelle de l'universel. Voilà ce que je voulais dire très exactement. Ce fait de devenir Abraham, n'importe quel homme en est capable, c'est donc la doctrine de pensée la plus universelle. Il n'y a aucune grâce pour être Abraham, sinon être un homme redevenu authentique. Peut-être que ça aussi c'est une grâce, mais vraiment au second degré. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'effectivement, notre privilège familial, pour ceux d'entre nous qui descendent des Hébreux, et c'est la minorité depuis le temps, je veux dire charnellement, hein, eh bien, notre privilège familial, c'est que cette mutation de récupération de l'universel se soit faite chez Abraham à Ivry, pas dans n'importe quelle famille, dans une famille en particulier des lignées humaines. Mais, dans le principe, cette mutation pouvait se faire n'importe où chez l'homme. Et c'est pourquoi, d'emblée, la pensée juive se veut universelle, et ce c'est la seule universelle, vraiment, parce que n'importe qui peut être juif, peut devenir juif, ce qui n'est pas vrai d'aucune autre identité humaine. N'importe qui ne peut devenir n'importe quoi. Mais juif, oui, n'importe qui peut le devenir, parce que c'est le cheminement d'avant. C'est bien à l'échelle de l'universel. Bien entendu, il faut assumer le destin corollaire, mais... Voilà, abordons maintenant, si vous voulez, la deuxième notion, très rapidement, et qui est celle de la révélation. Et lorsque le récit biblique nous parle de la révélation, il nous parle de deux choses simultanément. Mais il y a une dominante. Il nous parle, en même temps, de la révélation de Dieu, et de la révélation de la loi. Il y a indéniablement dans les récits de nos textes originels de la pensée juive, c'est-à-dire la Bible, eh bien, comme on dit en français, il faudrait dire la Torah, eh bien, il y a des récits de la révélation de Dieu. Mais cela restera pour nous, non pas l'aspect dominant, l'aspect, non pas la secondaire ni second, mais l'aspect occulté. Parce que nous ne sommes plus dans le temps de la prophétie, de la vision. Nous ne sommes plus dans le temps où l'identité juive était l'identité hébraïque et où la révélation de Dieu était perceptible en tant que révélation de Dieu, c'est-à-dire de celui qui est Dieu. Ce à quoi nous sommes maintenant, nous, reliés, homogènes, dans le temps de l'histoire de l'identité juive, après le temps de la prophétie, c'est à la révélation de la loi. C'est pourquoi je ne vous cache pas que la pensée juive cohérente, enfin traditionnelle, puis génériste, se préoccupe peu des récits de la Bible où il s'agit de la révélation de Dieu. Parce qu'a priori, elle sait que cela est corollaire du temps des Hébreux et que cela redeviendra juif qu'au temps du Messie, qu'au temps où la révélation comme phénomène se reproduira. Entre ce temps-là, le temps des Juifs, bien nous sommes renvoyés aux catégories précédentes. Cela nous est incompréhensible lorsque nous sommes renvoyés uniquement à l'appareillage, aux instruments de la pensée humaine constitutive d'elle-même. C'est pourquoi vous trouverez qu'effectivement, on ne trouvera pas dans les contenus de préoccupation de la pensée juive une préoccupation centrale à ce sujet. Il y a aussi d'autres raisons historiques, et en particulier le christianisme. C'est-à-dire à partir du moment où est apparu l'univers de la pensée chrétienne, qui au contraire s'appuie sur ces textes hébreux de la révélation de Dieu, étant donné ce qu'elle en dit à travers son équation personnelle, eh bien, il vaut mieux nous ne plus en parler, parce qu'on croirait qu'on parlait de la même chose. C'est arrivé comme ça, historiquement. C'est la raison pour laquelle, effectivement, ce qui aurait pu passer, même au niveau de la formulation morale de la catégorie de révélation, a été d'autant plus occulté dans la tradition juive de l'apparition de la tradition chrétienne. Le centre de préoccupation de la catégorie de révélation dans la tradition juive est surtout la révélation de la loi. Et voilà pourquoi cette deuxième notion est corollaire immédiatement de la première. Une conscience qui se connaît comme créée, qui se base sur cette première catégorie de la création, inévitablement doit aborder la seconde, elle est en quête de la révélation de la loi morale. Je disais encore, je répète, qu'en fait la révélation, ça a été simultanément deux choses, la révélation de la parole de Dieu, la loi morale, je reviendrai sur cette équation, et la révélation de Dieu lui-même. Il est indéniable que le pshat, enfin la lecture du texte biblique, nous montre que c'est le livre de la révélation de Dieu à l'homme, et pas seulement de la parole de Dieu à l'homme. Mais à partir du moment où l'expérience de connaissance de cette révélation de Dieu à l'homme cesse, lorsque cesse le temps de la prophétie, cela se trouve être occulté. Et c'est l'autre aspect, le deuxième, la révélation de la parole, en tant que c'est la loi morale, qui est le sens des préoccupations. Est-ce que c'est bien clair dans le langage traditionnel? C'est la différence entre le nigré, la préoccupation de la loi révélée, et le nistar, la préoccupation de celui qui révèle la loi. Je voudrais expliquer maintenant comment la notion de révélation a été impliquée dans la notion de création. Que le peuple fondé par Abraham est dans l'attente de la révélation de la loi à Moïse, dans le principe même. Parce que si l'homme se connaît comme créé, alors il connaît son être comme étant un être donné à lui-même, et par conséquent il découvre la moralité comme étant précisément la voie du salut. C'est-à-dire que l'être ne peut être, qui a été donné ne peut être obtenu vraiment que s'il est mérité. Et c'est la catégorie du mérite qui est la charnière entre la catégorie de la création et celle de la révélation. Si je me connais comme créé, alors je suis inquiet, en quête de la révélation de la loi morale, parce qu'il faut que je rende compte de l'être qui m'a été donné, dans la cohérence morale elle-même, et par conséquent, la conscience hébraïque qui connaît le Dieu créateur a besoin de la révélation de la loi. C'est le stade, c'est le deuxième stade. L'hébreu, se connaissant comme hébreu, ne peut trouver la tranquillité de l'esprit qu'au temps de la révélation de la loi. L'hébreu est donné à l'attente de la révélation de la loi morale. Si c'est vrai que je suis créé, alors la morale c'est sérieux, et si c'est vrai que la morale est sérieuse, ce n'est pas moi l'homme qui peut donner la loi morale, il faut que je la reçoive du Créateur. Voilà quelle est la chance. Ça veut dire qu'effectivement, l'attente de la révélation de Dieu par la conscience hébraïque, c'est l'attente de la révélation de la loi morale. Puisque c'est dès ce moment que la perspective du salut va se définir en termes de moralité. Vous retrouvez là les catégories classiques du vocabulaire juif, que le judaïsme est essentiellement un monothéisme éthique. Mais ce n'est pas du tout seulement par espèce de choix culturel ou d'option culturelle qu'on a préféré un monothéisme éthique au monothéisme contemplatif ou au monothéisme, tragique. Mais c'est parce que c'est le corollaire nécessaire de la première étape, si j'ose dire, de la première catégorie. La catégorie de la création, dès qu'elle est assumée, engendre la nécessité de la révélation de la loi révélée. Il y a donc une cohérence non seulement dans le récit, mais dans la péripétie même de ce qui s'est passé dans l'existence. Et Abraham fait attendre Moïse. Dès que je suis Abraham, alors j'attends que Moïse me parle. Et pour me dire quoi? Ce qu'il a à me dire, c'est quelle est la loi morale. Il y a, nous n'aurions pas le temps, mais il y a possibilité de retrouver, du point de vue de la même méthode, les analyses qui nous permettraient de comprendre pourquoi le juif a pensé, en tant qu'héritier de l'hébreu, que la loi morale ne peut pas être formulée par la pensée humaine. Et la loi morale ne peut être que reçue du Créateur, et elle ne peut être reçue du Créateur que par l'identité qui lui est homogène et qui la comprend, c'est-à-dire par l'identité de l'hébreu. Cela ne signifie pas qu'elle ne puisse pas être communiquée aux autres, mais cette communication, et c'est ce que j'ai oublié de dire dans la première analyse, cette communication par le langage nécessite d'abord une pédagogie de la conversion d'identité, en quoi que ce soit. Ce que l'hébreu a à dire ne peut être entendu par l'autre que si l'autre est déjà initié à la manière d'être de l'hébreu. Et certainement il y a eu, dans toute l'histoire des cultures, 1000 stratégies à partir d'Israël comme centre de ce problème, qui ont eu pour objectif d'imprégner en quoi que ce soit le monde extérieur de l'identité hébraïque, de telle sorte que le monde extérieur soit capable d'entendre la parole hébraïque, chaque fois à sa manière, mais de l'entendre malgré tout.